Et pour débattre ce soir, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, bonsoir.
Bonsoir.
Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
On peut s'interroger sur la durée de vie de François Bayrou. Est-ce qu'il va tenir plus de 3 mois? C'est-à-dire jusqu'à sa déclaration politique générale. Au-delà, bien sûr.
Oui, parce qu'elle sera théoriquement le 14 janvier.
Le 14 janvier, ensuite, c'est le budget.
Trois mois, c'est probable. Plus de 3 mois, ça n'est que possible. 3 mois, c'est probable parce que ce qui se passe n'est pas populaire, que les Français sont quand même inquiets, que les forces économiques et sociales, parce que la déclaration commune des syndicats moins la CGT et de toutes les branches du patronat, des plus grandes aux plus petites, ça n'est pas quelque chose de banal. Donc il y a une inquiétude générale et la période dont on sort, dont on va sortir, n'est pas particulièrement encourageante. Donc, en réalité, qui s'opposera vraiment à ce qu'il y ait un budget qui soit adopté? C'est peu probable, le budget passera, et donc les 3 mois à venir, normalement, sont très gérables. Je dis bien les 3 mois à venir. Alors, ensuite, c'est une toute autre affaire. C'est une toute autre affaire sur le plan social, parce que les choses ne vont pas bien se passer, qu'on sera dans une période de grandes difficultés, que les Français les vivront, et donc que les Français seront au minimum mobilisés et mécontents. Que sur le plan économique, il y a quelque chose dont on n'a pas vu jusqu'à présent dans les discussions, y compris à l'Assemblée, qui sur ce point, les questions posées à François Bayrou étaient nulles. À aucun moment, on l'a incité à définir exactement sa ligne économique. Or, il y a 2 lignes économiques possibles. Ça peut être de tout faire pour donner la priorité à la réduction des déficits budgétaires, ou ça peut être pour essayer de continuer à entretenir une croissance, donc un emploi, une croissance qui faiblit. Il n'y a eu aucune clarification. Mais simplement, au bout de 3 mois, il faudra bien que cette clarification-là, elle sera impopulaire, et elle déplaira à la plupart des forces politiques. Et puis, sur le plan politique à proprement parler, d'abord, il y aura eu la décision concernant Marine Le Pen, le 31 mars, et ça ne sera pas une petite chose dans le climat. Et puis, il y a la volonté ostensible du côté des Insoumis, même pas rampante, ascendante du côté du Rassemblement National, qui est de demander, d'exiger, de faire ce qu'il peut pour le départ d'Emmanuel Macron. Donc, dans cette phase-là, on aura à la fois une clarification économique qui ne pourra qu'être impopulaire, d'une part, et d'autre part, une tentation de ce qui serait l'ouverture d'une crise du régime.
Au-delà de 3 mois, François Bayrou?
Écoutez, la dissolution, ses conséquences législatives et la situation que nous connaissons sont un poison lent. Et je ne suis pas sûr que nous ayons l'antidote pour y faire face.
Cependant, François Bayrou n'est pas l'antidote. Alors.
Je ne suis pas sûr que la situation politique soit le rôle des partis, la composition surtout de l'Assemblée nationale, nous permette de retrouver cet antidote. Et pourtant, ça va être non pas face à Alain Duhamel, sinon physiquement, mais je vais poursuivre sa réflexion. Une guerre en Ukraine, les conséquences de ce qui se passe au Proche-Orient, la vague, le tsunami antisémite qui nous a submergés, le danger de l'islamisme. Un territoire, Mayotte, à reconstruire. Des sujets autour de la sécurité et de l'immigration qui préoccupent les Français. Et évidemment, une situation économique et financière dangereuse. Déficit, dette, qui vont nous obliger à un discours de vérité, et puis une augmentation du chômage, des faillites qui obscurcissent l'avenir.
Le tableau est noir.
Le tableau est très noir, parce qu'en plus, il y a une forme de ralentissement, et vous lisez ce que écrivent les agences de notation, les grands fonds internationaux. Au cours de ces dernières années, ça a été une des réussites d'Emmanuel Macron, il faut évidemment le reconnaître.
Le président du MEDEF dit on est déjà en récession.
Il y a eu beaucoup d'investissements étrangers. Tout ça est au ralenti. Je rajoute aussi notre pays voisin, principal partenaire, l'Allemagne, qui rentre non seulement dans une situation politique très compliquée, dans une situation politique très compliquée, mais qui peut rentrer aussi en récession. Donc face à cela, qu'est-ce que je peux dire, moi? Sinon, c'est un appel à la responsabilité.
De qui ?
De tous, à la stabilité. Mmh. Alain Duhamel a raison de dire, il y a deux forces politiques qui clairement veulent une élection présidentielle anticipée. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
C'est-à-dire une crise de régime.
Quelque chose sans précédent, une crise de régime, et qui resterait, parce que de la même manière qu'on peut avoir maintenant des motions de censure à répétition, on pourrait avoir des présidents de la République qui se retrouvent empêchés. Donc face à cela, des républicains jusqu'aux socialistes, moi je ne change pas de discours, ceux qui iront au gouvernement, les républicains probablement, même s'il y a aujourd'hui des doutes, et les socialistes qui ont décidé de rester dans l'opposition, mais chacun doit se comporter avec la plus grande responsabilité.
On ne peut pas demander à les socialistes d'approuver Bruno Retailleau. Enfin, dans ce cas-là, c'est le retour de l'UMPS.
Oui, mais que demandent les Français ? Que demandent les Français ? Ils demandent de l'ordre, c'est vrai sur la sécurité ou l'immigration. Ils demandent de la justice, je pense à la question des retraites. Mais il faut aussi leur tenir un discours de vérité, parce que ce pays a été, d'une certaine manière, il a été biberonné.
Les gens qui ont voté Nouveau Front Populaire n'ont pas voté pour Bruno Retailleau.
Mais ils ont en tout cas, est-ce que les Français peuvent accepter une situation d'instabilité qui conduit au chaos et où chacun se rend emporté. D'où l'appel à la
Mais est-ce que l'instabilité, c'est pas vouloir mettre dans un même gouvernement des gens qui pensent pas la même chose
et penser
que ça va se passer bien. En démocratie, il faut aussi de la clarté. Pas que de la stabilité, de la clarté.
Je ne dis pas ça, il faut la clarté.
Alors, s'il s'agit de dire que la situation actuelle à l'Assemblée est incroyablement complexe et sans précédent sous la Ve République, maintenant, je pense qu'on s'est tous mis bien cette idée dans la tête. Mais moi, ce qui me frappe depuis la motion de censure, c'était vrai évidemment avant la motion de censure, puisqu'on allait vers la motion de censure, mais depuis la motion de censure, je ne vois pas, quoi que dise François Bayrou, je ne vois pas beaucoup d'évolution de part ou d'autre vers des compromis. L'idée, parce que...
Même les LR.
Tout le monde s'est mis dans la tête parce que c'est la réalité. Bon, il y a une tripartition, elle est de fait. Bon, il est probable que s'il y avait une dissolution dans 6 ou 8 mois, il y aura encore une tripartition et qu'il n'y aurait pas une majorité. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est par nature minoritaire. Quand il y a un gouvernement qui est minoritaire et quand il y a une situation économique et sociale, il faut insister là-dessus, qui est aussi grave que celle qui existe maintenant, qui est là, qui est plus mauvaise que depuis 10 ans, quand même. Même un peu plus de 10 ans. Bon, quand on est dans une situation comme ça,
on apprend que François Bayrou a rendu, entre guillemets, sa copie à Emmanuel Macron, donc il lui a déposé
à Bruxelles avec
la liste du gouvernement. Voilà.
Bon, bah, c'est intéressant. Ça avance. Ça prouve que la composition du gouvernement avance. Il n'empêche que quand on a entendu tous ceux qui sont exprimés à propos de la composition de ce gouvernement, on n'a pas vu beaucoup d'espérance de compromis.
Moi,
j'avais
entendu dans les déclarations une partie de la gauche, le socialisme et pas seulement, la possibilité en tout cas de la recherche d'une stabilité.
De ne pas censurer.
Il y avait l'idée de stabilité, effectivement.
Mais la question de la stabilité, je fais référence aux propos, certes, il n'est plus en action, mais de Lionel Jospin, qu'il a évoqué. De François Hollande, encore ce matin, disant qu'il ne souhaite ni démission, ni dissolution, ni élection. Parce que je crois que, parlons d'hommes d'État, chacun est conscient du péril. Donc, moi, je comprends parfaitement que les socialistes ne veuillent pas participer au gouvernement. Il faut que le gouvernement soit cohérent, vous avez raison. Mais en tout cas, vu les enjeux, vu les périls, vu les défis, eh bien, chacun, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas poser que des lignes rouges, des exigences des oukases qui rendent impossible la tâche du Premier ministre.
Ça veut dire que personne n'a vraiment compris que les temps avaient changé, et notamment...
Personne n'a compris le danger dans lequel nous sommes.
Je parlais des parlementaires qui devraient finalement prendre les choses en main, en quelque sorte, mais positivement, c'est-à-dire trouver des solutions.
Oui,
ça ne doit pas se passer à l'Élysée, ça doit se passer au Parlement.
Ça n'est pas du tout ce qu'on a vu les derniers jours. Alors, si François Bayrou présente un gouvernement, tant mieux.
Il y a une copie, Emmanuel Macron est d'accord avec la copie.
Oui, si on annonce qu'il la présente, j'imagine...
Alors c'est les sources proches du Premier ministre.
Et puis ils se sont vus quand même. Mais L'idée de François Bayrou, qui est sur le principe, moi je trouve que c'est très raisonnable, de dire il faudrait trois tiers, un tiers de gens de gauche, un tiers de gens qui seraient évidemment de gauche modérée, un tiers de gens du centre et un tiers de droite qui seraient également évidemment modérés. Non mais c'est bien gentil, mais il n'aura pas de membres du Parti Socialiste. Non. Bon, et il aura du mal.
On parle de François Rebsamen, mais qui n'est plus au Parti Socialiste.
Mais oui, on ne va pas chercher à débaucher un parti qui a décidé de l'opposition. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu.
Ça risque d'être, je ne dis pas la réalité du comportement, mais une tentation du côté de LR. À un moindre degré quand même, parce qu'ils sont quand même heureux d'être revenus au pouvoir.
Non, mais dans ce cas-là, il ne faut plus utiliser 49.3. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Bah si, parce que si on ne veut plus qu'il y ait de censure, si d'accord, on utilise le 49.3 qui entraîne de facto une motion de censure...
Puis j'utilisais un argument, je ne sais pas pourquoi on utilise le 49.3, mais attention, parce que si on n'utilise pas le 49.3 sur les textes budgétaires, pourquoi pas? Ça peut être un compromis. Je peux comprendre que François Bayrou, il était il y a quelques jours, avant d'être nommé Premier ministre, était favorable à la non-utilisation du 49.3, à condition qu'il n'y ait pas...
Au non-cumul des mandats
et qu'il n'y ait pas de motion de censure. Je vous sens taquin sur ce sujet. Mais surtout que c'est moi qui ai porté cette réforme quand j'étais ministre de l'Intérieur. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet le plus grave du moment. Mais
ni le mieux venu.
Nous sommes d'accord.
Et les Français ne sont pas très pauvres.
Mais si on n'utilise pas le 49.3, ça veut dire qu'on négocie le budget. Et donc, négocier le budget, ça veut dire d'une certaine manière, on participe au gouvernement de la France. Alors, il peut y avoir peut-être des points du budget et d'autres, mais quelle sera l'attitude des socialistes ?
On peut s'abstenir.
Bon. Donc, tout ceci fait partie, je crois, de la discussion au nom d'une idée, ou d'une double idée, enfin, c'est la même, la responsabilité du moment vis-à-vis du pays et des Français, et donc la recherche d'une stabilité. Pour combien de temps ? C'était votre question initiale. Oui. Bah, écoutez, il reste 30 mois, j'ai dit ici à la prochaine élection présidentielle, quelques mois avant une élection législative qui ne changerait peut-être pas grand-chose, en tout cas qui ne créerait pas les conditions d'accord. de la stabilité. Donc moi, vraiment, républicain et socialiste, évidemment, ce qu'on appelle le bloc central, là, le socle commun, chacun doit être très responsable. D'accord. Sinon, nous serons... balayé.
Vous avez employé tous les deux plusieurs fois le mot stabilité, surtout vous, Monsieur Valls. Mais est-ce que stabilité, ça veut dire inaction ? Parce que mener une politique, c'est aussi prendre
c'est bien,
des choix.
C'est bien pourquoi je vous disais que, d'une part, il va y avoir un climat social qui va être inévitablement détestable, parce que ça ne va pas bien se passer. Bon. Mais que le plus dur, ça va être de choisir entre... Est-ce que je continue à entretenir l'activité économique en acceptant donc des déficits budgétaires ou à diminuer progressivement, lentement, trop lentement d'ailleurs, les déficits budgétaires et à ce moment-là d'accepter qu'il y ait des pressions sur le pouvoir d'achat, qu'il y ait plus de chômage, etc. On peut faire l'un, on peut faire l'autre, on peut pas faire les deux. Et le risque, c'est qu'il n'y ait pas un choix qui soit fait. Exactement. Le risque, c'est qu'on reste entre les deux. Et si on reste entre les deux... Eh ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas sur le plan économique, ça ne marchera pas sur le plan social. Et donc, ça poussera à ce qu'il y ait de nouveau une crise politique qui peut se transformer en crise de régime. Parce qu'il ne faut pas raconter l'histoire. S'il y avait une majorité pour demander le départ du président de la République, s'il y avait ça à l'Assemblée nationale, et ils ont les moyens de l'arracher, s'ils le veulent vraiment. S'il y avait ça, ce sont les institutions qui sont en cause. Une fois qu'après...
Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon diront c'est la solution.
C'est la crise de régime. C'est la crise de régime. J'en finis tout de suite. C'est la crise de régime parce que une fois qu'un président aurait été obligé d'abréger son mandat, tout président serait soumis à la même chose.
Le général de Gaulle a abrégé son mandat.
Mais non. C'était sur un référendum dont il savait en plus qu'il le perdrait.
Alors, il avait une majorité massive à l'Assemblée nationale.
Il manquait pas de majorité, ça.
D'accord, mais il n'y a pas eu de crise d'origine derrière.
Mais non. Mais là on voit bien que une dissolution qui a conduit au fait qu'il n'y ait aucune majorité dans une situation géopolitique, économique, nous l'avons dit, et sociale particulièrement périlleuse, une crise politique qui est déjà latente, conduit à la crise de régime. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Je pense qu'il faut faire des choix. Continuer avec 6 ou 7% de déficit et 130% de dette, ça n'est pas viable. Donc, s'il n'y a pas un discours de vérité...
Qu'on n'a pas pour l'instant, François Bayrou ne dit rien là-dessus. Hein.
Non, y compris...
Mais non, c'est pour ça que la clarification...
Budget préparé par Michel Barnier ne faisait pas ces choix-là. Il préférait l'augmentation des impôts. Mais si on dit... voilà, sur les 30 mois qui viennent, voilà ce que l'on fait, on redresse...
Oui. Non, mais ce que je veux dire, même le socle, comme vous l'avez dit, central, n'est pas d'accord sur ça. Souvenez-vous des critiques portées par Gabriel Attal, Gérald Darmanin, sur le budget Barnier.
Mais ça s'appelle le courage.
Ces mêmes critiques vont revenir.
Ça s'appelle le courage. Ça veut dire qu'il faut affronter une réforme.
Quand on est sans majorité.
Je sais, mais
sans majorité.
Mais écoutez, moi,
c'est du suicide, le courage seul.
Oui, mais moi, ce que j'attends, c'est que ceux qui sont demain en capacité de gouverner, qui vont sans doute gouverner, le disent. Après, chacun prend ses responsabilités. Il n'y a pas d'autre choix. Oui. Parce que sinon, on ment aux Français. Et la crise ne va que s'aggraver.
Conclusion.
Et il y a quand même un facteur qui est que les Français n'ont pas envie de cette crise, que aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui l'emporte et que ça va peser sur les politiques. De toute façon, ça va peser. Et l'idée que... L'idée qu'on puisse faire une nouvelle censure sans déboucher sur une crise beaucoup plus grave, c'est une idée fausse et je pense qu'on s'en rendra compte aussi.
Mais est-ce que du coup des personnalités comme Manuel Valls ayant de l'expérience doivent faire partie de ceux qui doivent aller au charbon, pardon pour l'expression, ou peut-être rentrer au gouvernement?
En tout cas, comme moi, mon observation des choses, c'est qu'il n'y a pas 150 hommes politiques de haut niveau en France.
Pourquoi pas?
Ceux qui sont de haut niveau, il faut les utiliser.
Non mais sérieusement,
je suis pas été appelé. Je suis pas sur la liste qui a été retenue.
Vous étiez appelé?
Je crois qu'à chaque fois que vous me posez, c'est vous.
C'est bien qu'on change de gouvernement régulièrement, donc.
Oui. Non, mais parce que vous êtes dans l'espace que vous-même définissez.
S'il faut y aller pour la France, vous irez.
Par rapport à ce que vous dites.
Moi, je me contente de dire ce que je dis tout à l'heure. Parce que si c'est une question, je sais bien que les questions d'hommes et de femmes et de casting, comme on le dit, sont plus importantes de ce que l'on croit. Mais d'abord, j'ai pas été appelé. J'ai déjà occupé des fonctions gouvernementales. Je pars demain quelques jours en vacances. Moi, je me contente de dire ce qui me paraît être l'essentiel dans ce moment-là. Agissez et soyez responsables.
Un dernier mot, parce que c'est l'actualité aussi.
Oui.
Et elle n'est pas anodine. Nicolas Sarkozy a été condamné définitivement aujourd'hui à un an de prison ferme sous bracelet électronique. C'est une première pour un ex-président. Quelle est votre réaction?
Ça en rajoute, non? Sur la crise politique et morale que nous connaissons. C'est grave. Je comprends la réaction de Nicolas Sarkozy avec une certaine dignité par rapport à ce qui lui est imposé. Moi, je ne peux pas commenter une décision de justice et la justice est indépendante. Mais c'est un moment lourd, grave. Moi, je ne suis pas parti du camp de Nicolas Sarkozy, mais j'ai du respect pour lui. Attention. Attention, parce que c'est un élément de plus, c'est le hasard
attention
du calendrier judiciaire. Le délitement général.
Merci Manuel Valls. Mais délitement général de quoi, en fait? Parce que...
Du rapport responsable politique. C'est un ancien chef de l'État qui peut être amené à porter, vous l'avez dit.
Il fallait pas le condamner?
Ce bracelet. Je dis pas ça, c'est la décision de la justice, mais je le constate. Je le constate. C'est un fait. Et ce fait-là se rajoute.
Parce que, attention, délitement, je vois pas quelle perspective vous voulez dessiner.
Il n'y a pas de perspective. C'est un fait de plus qui se rajoute à la situation que j'évoquais.
Effectivement, il faut faire attention, ça peut participer au délitement, à la défiance, à l'émiettement de la société.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une période où il y a un énorme scepticisme vis-à-vis du personnel politique, quand on voit deux présidents de la République et deux premiers ministres qui sont condamnés, ben forcément, ça ne simplifie pas les choses. Ça, c'est bien clair.
Et peut-être au mois de mars, une candidate, Marine Le Pen, peut-être.
Une favorite.
Merci Manuel Valls, merci Alain Duhamel.